que Dieu nous parle par sa parole en cet après-midi. Je voudrais lire quelques versets du prophète Ésaïe. Levons-nous pour cela. Ésaïe, chapitre 55, du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et celui qui se livre à la méchanceté ses pensées. Et qu'il retourne à l'Éternel pour qu'il ait pitié de lui et à notre Dieu, car il multiplie les pardons. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies. C'est ce que dit l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi à vide, mais seulement lorsqu'elle a accompli ce que j'ai voulu. Lorsqu'elle a produit ce pourquoi je l'ai envoyé. Car vous sortirez avec joie. Vous serez conduits en paix. Jusqu'ici cette parole. Prions. Père céleste, de tout cœur, nous te remercions ensemble pour cette journée. Nous te remercions pour le temps de grâce, pour le temps de la grâce dans lequel nous vivons. Nous te remercions de nous avoir accepté dans la grâce et par la grâce et de nous avoir rendu ta propriété, d'avoir fait de nous ta propriété. Seigneur fidèle, que la parole nous parle à tous aujourd'hui d'une manière toute particulière. Parle-nous si clairement que nous puissions te comprendre. Afin que nous puissions te comprendre, donne-nous la force de répondre à ce que tu nous dis. Donne-nous la force de prendre ta parole à cœur, de la suivre, de la vivre, Seigneur fidèle, afin qu'elle puisse vraiment devenir chère en nous et par nous. Que nous soyons, nous aussi, des lettres ouvertes, écrites par ton esprit, lu par tous les hommes. Je place ce culte sous la garde de ta parole, de ton esprit au Seigneur. Que le sang précieux de l'agneau nous couvre tous, ô Dieu. Que toute faute soit expiée, que tout péché soit pardonné. Que toute injustice soit ôtée de nous. Que ta colère se détourne de nous. Et que tu puisses nous regarder avec miséricorde. Sauveur bien-aimé, accepte-nous tous. Donne-nous la grâce de parler et la grâce d'entendre, d'écouter. Nous te remercions d'avance, Dieu Tout-Puissant, pour la victoire et la bénédiction en cette heure, au nom de Jésus. Amen. Amen. D'Ésaïe 55, verset 6, et en particulier le sixième verset. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'il se laisse trouver. Le jour viendra où les hommes le chercheront. Nos frères et sœurs l'ont chanté dans le cantique. Alors les hommes crieront vers la montagne et la colline, vers les montagnes et les collines, et il n'y aura plus de réponse. Pas d'exaucement, pas de pitié. On ne peut pas imaginer une situation pire. D'où cette exhortation, cet avertissement pressant. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Pendant combien de temps se laisse-t-il trouver? Tant qu'il y a un temps de grâce. Tant que cela dure, tant que le aujourd'hui dure encore. L'Écriture dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je voudrais que nous tous qui sommes ici aujourd'hui, et aussi tous ceux qui vont entendre cette prédication, cette réunion, que tous nous puissions avoir la certitude de la foi par l'Esprit de Dieu en nous, que tout est en ordre avec Dieu, qu'il a réparé les dégâts, qu'il a fait toutes choses bien, qu'il nous a accueillis et acceptés et qu'il nous a justifiés devant sa face. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Le meilleur jour pour cela, je peux vous le dire, c'est aujourd'hui. Et le meilleur moment, je peux aussi vous le dire, c'est maintenant. Maintenant, pendant que nous écoutons une telle parole, posons-nous la question. Seigneur, est-ce que je t'ai déjà cherché? Est-ce que je t'ai trouvé? Et là, nous pensons à ce que disait frère Branham, à savoir que l'homme ne peut pas chercher Dieu par lui-même, qu'il est au contraire en fuite devant Dieu de nature. Mais ensuite, lorsque le divin l'attire, lorsque l'esprit commence à agir dans le cœur de l'homme et que l'Écriture s'accomplit, tous ceux que le Père attire viennent à moi et je leur donne la vie éternelle. Nous devons ressentir que Dieu nous attire. Nous devons ressentir ça en nous. Et ensuite ne pas résister, mais venir et dire, Seigneur, reçois-moi. Accepte-moi. Plus loin, il est écrit, la deuxième partie du verset 6 de Ésaïe 55, invoquez-le pendant qu'il est proche. Nous avons la promesse dans le prophète Joël. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront bénis. Mais l'appel doit venir de ton cœur et être prononcé par ta bouche, par tes lèvres, et alors Dieu nous exauce. Mais cela venir du cœur, sincèrement. Maintenant, l'invitation à ce que l'impie abandonne sa voie et celui qui se livre à la méchanceté ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel. Le verset 7. Quand ici le mot impie ou bien méchant est mentionné, les gens sont contrariés, ils ne veulent pas l'entendre. Puis ils disent, je n'ai jamais tué personne. Et ainsi de suite, moi aussi je crois en Dieu. Tout homme est impie. Pensez à cela comme à deux mots. En allemand, impie, on dit sans Dieu. Tout homme est sans Dieu. Donc sans Dieu. Et puis le lien que Dieu établit en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les sans Dieu. Donc les impies avaient été reliés à Dieu. Ceux qui étaient éloignés sont devenus proches. Ceux qui étaient perdus doivent recevoir le salut. Tel est le message de l'Évangile. Il est dit ici que l'impie abandonne sa voie, il relit le verset 7, et celui qui se livre à la méchanceté de ses pensées et qui retourne à l'Éternel. Et là, je voudrais rappeler une citation de frère Branham. Il disait, J'ai l'impression que les gens n'arrivent que jusqu'à une église, viennent jusqu'à une église seulement et ne pénètrent pas jusqu'à venir au Seigneur, dans le Seigneur. Et c'est là aussi que Dieu nous accorde aussi cela, qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous, que nous venions seulement au service divin, mais que nous venions plutôt au Seigneur, que nous soyons interpellés par lui, attirés par lui, que nous puissions le vivre par grâce. Ici, il est dit encore ensuite et qu'il retourne à l'Éternel pour qu'il ait pitié de lui et à notre Dieu, car il multiplie les pardons. Le verset 7. Mais l'homme doit le prononcer de sa bouche et dire, Seigneur, pardonne-moi. Dieu fidèle, fais-moi grâce, aie pitié de moi. Pécheur, sauve-moi. L'homme doit ainsi s'adresser à Dieu, venir à Dieu ainsi et demander le salut afin d'être sauvé. Ensuite, bien sûr, les autres versets qui entrent déjà dans notre sujet de la parole du Seigneur. Comme la pluie tombe sur la terre et produit un sens et un but, à savoir que le semeur puisse semer et que les affamés puissent manger du pain. Il en est ainsi de la parole de Dieu. Elle ne revient pas à vide, mais elle produit l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Cela est écrit ici de manière merveilleuse au verset 11. Il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Combien de fois les hommes ont pris la parole de Dieu et ont-ils ajouté à la parole originale une toute autre signification, tordu le sens et ont interprété, et ce n'est plus resté la parole de Dieu, mais est devenue la parole des hommes. Il s'agit d'entendre la parole de Dieu dans sa forme originale, pure et claire, de la recevoir, de la laisser agir en nous, car elle ne peut pas revenir à vide. Elle accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Je le lis encore. Le verset 11, la deuxième partie, elle ne revient pas à moi à vide, mais seulement lorsqu'elle a accompli ce que j'ai voulu, lorsqu'elle a produit ce pourquoi je l'ai envoyé. Il y a une autre parole également dans le prophète Ésaïe, où le prophète dit, Dieu m'a envoyé, moi et son esprit. Et nous savons que cette parole a été adressée au prophète et que l'esprit de Dieu qui leur a révélé la parole et qui les a inspirés, se reposait sur eux comme une onction sainte. Il en va de même pour nous qui entendons cette même parole aujourd'hui. C'est une parole vivante. Et l'onction sainte repose sur nous, sur ceux qui entendent aujourd'hui la parole et croient de tout leur cœur et comptent sur Dieu pour la réaliser. Vous savez que nous pouvons entendre parler du salut, de guérison, de tout, à moins que ce que nous entendons ne soit cru, sinon nous l'avons entendu en vain. Il faut y croire. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que devons-nous croire? La parole de Dieu. Dans sa forme originale telle qu'elle nous a été laissée, je voudrais encore lire quelques passages de l'Écriture. Le deuxième étant tiré d'Ésaïe 57. Ici, à partir du verset 14. Et il commandera, frayez un chemin, préparez une route, enlevez toute occasion de chute pour mon peuple. Enlevez du chemin toute occasion de chute pour mon peuple, car ainsi a parlé le Très-Haut, et très exalté, qui siège éternellement et dont le nom est le Saint. J'habite dans les lieux très hauts, Ésaïe 57, verset 15, et dans le sanctuaire, et avec ceux qui ont l'esprit brisé et qui sont courbés pour ranimer l'esprit de ceux qui sont courbés et pour rafraîchir le cœur de ceux qui sont courbés. Car je ne contesterai pas à toujours, je ne m'irriterai pas à toujours, autrement, tout esprit se consumerait devant moi et les âmes que j'ai moi-même créées. Quelle parole merveilleuse. Créer une voie. Ôter tout obstacle du chemin de mon peuple. Si nous pouvions réussir cela en annonçant la parole de Dieu, par l'annonce de la parole de Dieu, que nous puissions ôter, écarter tout obstacle, toute occasion de chute, qu'il soit terrestre ou spirituel. Ôter cela du chemin du peuple de Dieu et que le deuxième verset que nous avons lu s'accomplisse lui aussi. Car ainsi a parlé le Très-Haut et très exalté, qui siège éternellement et dont le nom est le Saint. Le verset 15, j'habite dans les lieux très hauts et dans le sanctuaire. Et ça, nous le savons, ça, nous le croyons. Mais cela ne cesse pas, ne s'arrête pas là. Le même qui habite dans les lieux très hauts et dans le sanctuaire, dit ici, et avec ceux qui ont l'esprit brisé et qui sont courbés. Le même Dieu qui habite en haut, dans les lieux élevés et dans le sanctuaire, dans une lumière à laquelle personne n'a accès, ce même Dieu habite en ceux qui ont reçu sa parole, en ceux qui ont fait l'expérience avec Jésus-Christ et l'ont accepté comme leur rédempteur personnel, comme leur sauveur. Et alors, cette parole s'accomplit en eux, en haut, dans le sanctuaire et chez ceux qui ont l'esprit brisé, le cœur brisé et l'esprit courbé. Dans quel but ? Pour ranimer l'esprit de ceux qui sont courbés et pour rafraîchir le cœur de ceux qui sont brisés. L'ennemi veille déjà à ce que nous tombions dans un tel état. Et puis, nous avons alors la promesse que le Seigneur fera revivre, rafraîchira, que personne ne sera confondu, que personne ne sera découragé. C'est ce que je me suis dit ces derniers jours. L'homme qui croit n'est pas découragé. Et celui qui est découragé ne croit pas. C'est aussi ce que nous avons entendu dans l'Épître aux Hébreux et dans l'Apocalypse au sujet des personnes découragées. Où seront-ils? Vous les bien-aimés, non pas que nous soyons trop confiants et que nous nous disions que nous arriverons, mais en faisant confiance à Dieu, en croyant en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est devenu notre vie, notre espérance, notre paix, notre tout. En le regardant, en regardant à lui, notre âme sera tranquille. En regardant à lui, nous recevons une nouvelle force. Aujourd'hui, il veut faire au milieu de nous ce que nous avons lu ici, afin de ranimer l'esprit de ceux qui sont courbés et de rafraîchir le cœur de ceux qui sont brisés. Que disait notre Seigneur autrefois? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous rafraîchirai. Je vous donnerai du repos pour votre âme. Cher cœur, ne sens-tu pas que Dieu veut nous faire du bien aujourd'hui, qu'il veut aujourd'hui consoler, qu'il veut rafraîchir, qu'il veut verser du baume, de l'huile sur les plaies, que ce service divin soit vraiment une heure où nous puissions vivre Dieu, expérimenter Dieu ensemble. de raviver l'esprit de ceux qui sont courbés et le cœur de ceux qui sont brisés. Compte sur cela aujourd'hui. Attends-toi à cela. Crois que cela se produira. Attends-toi à ce que Dieu le fasse. Et cela se fera. Cela se produit selon notre foi. Bien-aimés, nous devons être à la hauteur de la prédication de la parole. Si nous voulons faire l'expérience de Dieu, nous devons savoir qu'il nous parle maintenant justement. Parce qu'il veut se glorifier en nous. Il veut confirmer sa parole. Pas seulement après-demain. Aujourd'hui, ici, sous la prédication de la parole, il veut réaliser, accomplir et donner ce qu'il a promis. Je voudrais lire une autre parole, également tirée du prophète Ésaïe, qui se trouve au 8e chapitre, Ésaïe, chapitre 8. Ici, il est écrit, à partir du verset 13. Non, l'Éternel des armées, vous le tiendrez pour saint. Il sera votre crainte, il sera votre terreur. Alors, il deviendra une occasion de sanctification, une pierre d'achoppement et un rocher de trébuchement. Restons ici un moment. Les deux choses sont dites du Seigneur des armées. Il sera pour les uns une occasion de sanctification, pour les autres, une pierre d'achoppement. Il en a été ainsi dès le commencement. Déjà lorsque le Seigneur marchait sur la terre, les uns se sont dressés contre lui, les autres ont trébuché et sont tombés. Si bien qu'il a dû dire, celui qui tombera sur cette pierre ou sur qui tombera la pierre sera alors écrasé pour nous. Il est la précieuse pierre angulaire, le fondement, la pierre de base. Pour beaucoup d'autres, elle est devenue la pierre d'achoppement, le rocher de l'offense jusqu'à aujourd'hui, rocher de scandale jusqu'à aujourd'hui. Si nous considérons les Saintes Écritures à la lumière que Dieu nous a donnée, nous savons très bien que le monde entier est sous la puissance du malin, est sous l'influence du malin. Celui à qui Dieu ne s'est pas révélé ne le connaît pas, ne connaît pas Dieu, il ne sait pas qui il est. Et Jésus a dit à Philippe autrefois, il y a si longtemps que je suis au milieu de vous, et toi Philippe, tu ne me connais pas encore. Celui qui m'a vu a vu le Père, Dieu révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. La première partie de ce verset me semble d'une très grande importance pour nous. L'Éternel des armées, vous le tiendrez pour saint. Et il sera votre crainte et il sera votre terreur. Alors il deviendra une occasion de sanctification. Nous savons tous qu'il est écrit que sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. De même, nous savons qu'il est écrit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés en vérité. De même, nous savons qu'il est écrit, il est parlé de la sanctification qui est opérée par l'Esprit de Thessaloniciens. Qui peut être sanctifié? Je sais que des millions de personnes prient que ton nom soit sanctifié. Ils ne savent même pas de quel nom il s'agit, n'est-ce pas? Le nom ne leur a même pas été révélé. De la même manière, on peut parler de sanctification, on peut parler de la justification, on peut parler du baptême Saint-Esprit, de la foi de l'enlèvement, de beaucoup de choses, sans avoir la chose elle-même. Le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, je l'ai certainement déjà dit ici, lorsque j'ai voyagé à travers les États-Unis dernièrement et que je suis monté dans l'avion de TVA et que la première question que l'hôtesse m'a posée a dit, êtes-vous né de nouveau? Oui. Êtes-vous né de nouveau? Je suis à peine monté. Eh bien, bien sûr que pour moi, en tant que patient, je m'excuse, pardon, en tant qu'homme qui a pris l'avion, c'était déjà une surprise. C'était la première phrase. C'est quand même étrange. Êtes-vous né de nouveau? J'étais à peine monté. Et puis, je ne suis pas toujours dupe. Hein. Dans tous les cas, j'ai regardé la dame. Eh bien, tout ce qui pouvait être peint et maquillé l'était. Des sourcils jusqu'au menton, en passant par les lèvres et tout le reste. Seules des nuances différentes ont été utilisées partout. Et des cheveux très courts et encore une vraie coupe d'homme. Et vous pouvez vous imaginer, autant j'ai été étonné par cette question, autant elle a dû être étonnée aussi par la question que je lui ai... Pour la question inverse, on pouvait la voir sur son visage. J'ai répondu oui, par grâce, je suis né de nouveau. Mais qu'en est-il de vous? Et savez-vous qu'il ne pouvait pas y avoir là de réponse? J'ai immédiatement insisté. Parce que vous m'avez demandé si j'étais né de nouveau. Maintenant, je vous le demande au nom du Seigneur. Êtes-vous né de nouveau? Eh bien, dit-elle, oui, vous savez que dans notre pays, environ 50% des gens sont nés de nouveau. Je lui ai dit, mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé si vous êtes né de nouveau. Vous m'avez pourtant demandé si moi je suis né de nouveau. Alors moi je vous demande si vous êtes né de nouveau. Pas si les gens sont nés de nouveau. Les gens, vous savez, utilisent sans même savoir ce qu'ils disent. Ils utilisent des mots. Un homme qui est né de nouveau. Il est né de Dieu. Alors il a la nature même de Jésus-Christ. Qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Les gens sauront alors ce qu'il a... Comment se conduire et comment s'habiller intérieurement, comment être extérieurement. Ce sont des slogans, justification, nouvelle naissance, sanctification, baptême, Saint-Esprit. Tout peut être un mot, terme, juste un terme sur lequel on se dispute, sur lequel on prêche. Le temps est venu pour nous de mettre en nous, Dieu veut mettre en nous un désir d'expérimenter véritablement toutes ces choses. Qu'il n'y ait pas un seul d'entre nous, qui n'ait pas expérimenté ce qui doit être expérimenté avec Dieu. C'est une nécessité divine. Il est écrit ici, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous devez, pas vous pourriez, vous devriez. Non, vous devez naître de nouveau. Sinon, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nous voulons faire l'expérience de Dieu ensemble, prendre Dieu par sa parole et nous laisser conduire par son esprit à une repentance profonde. Nous avons si souvent attristé le Seigneur par notre incrédulité, par toutes sortes de choses dans notre vie. Et c'est pourquoi nous avons parfois l'impression qu'il s'est retiré. Il veut se manifester. Il veut être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il veut se sentir à l'aise parmi nous. Il veut voir la foi. Il veut voir l'obéissance des gens qui ont entendu la parole de l'heure, des gens qui ne se contentent pas d'en parler, mais qui ont été saisis par Dieu, comme Paul l'écrit aux Philippiens. J'oublie ce qui est derrière moi, parce que j'ai été saisi par Christ. Je cours ou je me hâte après lui. Quelque chose de nouveau doit se produire en nous tous, quelque chose de nouveau avec nous tous. Une toute nouvelle œuvre par l'Esprit doit avoir lieu en nous. Respect devant Dieu, respect devant sa parole. Sanctification, sanctifié dans la parole de la vérité, par l'Esprit de la vérité, comme nous venons de le souligner ici. Qu'il soit votre crainte, il sera votre crainte. Tu craindras ton Seigneur Dieu, tu l'aimeras et tu te confieras en lui, tu te confieras en lui. Une sainte crainte. Et cette sainte crainte est le début, est le commencement de la sagesse divine. Dans l'église primitive, la crainte est venue, s'est abattue sur tous. Dieu s'est témoigné de lui-même. parmi eux. Et je pense que la même crainte doit revenir dans l'Église. Lorsque l'on observe et que l'on assiste souvent à la manière dont les gens se croient être quelque chose, ils pensent vraiment qu'ils sont quelque chose, réellement. J'avais une équipe avec moi sur le chemin de Nairobi à Lilongwe. Ils ont continué à voler jusqu'à Lusaka et moi aussi, et en tout cas une équipe de plus grands et de plus connus des évangélistes américains. Une équipe du plus grand et du plus connu et du plus connu des évangélistes américains, pardon. Et j'ai lu ma Bible, j'étais en train de lire ma Bible et nous avons commencé à discuter. C'était une très belle conversation. Ils étaient très contents d'avoir un Européen qui porte aussi l'Afrique sur son cœur. Une belle conversation de quelques minutes. Et quand je suis entré dans le vif du sujet, ils m'ont demandé, mais qui êtes-vous et de quoi s'agit-il ici, etc. avec vous. J'ai juste ouvert le sac et j'ai commencé à dire quelque chose. Oh mon Dieu, tout était déjà fini. Je venais à peine, d'ouvrir le sac, comme on dit. Toute joie était terminée. Pourquoi? Ils n'ont pas vu l'heure de la visitation divine. Ils n'ont pas reconnu dans leur temps. Construisent un grand empire. Pour qui? Pour un grand homme quelconque. Et tout cela au sein du royaume de Dieu. Notre Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et le Seigneur a placé les services, les différents services dans son église, j'ose dire, sur la base de l'autorité de la parole de Dieu, que celui qui n'accepte pas les services que Dieu a placés dans l'église, celui-là a rejeté l'ordre divin. Oui, il n'a pas accepté pour lui-même ce que Dieu a promis. Il peut avoir un programme énorme et en tant que plus grand évangéliste, avoir quelques milliers de collaborateurs et quelques millions de dollars à disposition. Cela ne signifie rien dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas avec cela que l'on peut impressionner un véritable enfant de Dieu. Je peux vous dire ce qui m'aurait impressionné au début du Nouveau Testament, ce Jean avec la peau de chameau, avec la ceinture de cuir, qui avait le message de Dieu. Cela m'aurait impressionné, mais pas n'importe quel grand nom. Nous vivons à une époque où les gens font quelque chose avec les noms. Et vous savez, nous avons le grand avantage de pouvoir porter l'opprobre, La plupart d'entre eux veulent être honorés par Dieu. Et ils croient encore que c'est la bonne voie. Que dit-il de Moïse? Que dit-on de Moïse? Il a considéré l'opprobre de Christ comme une plus grande richesse que d'avoir une part temporaire dans le péché de l'Égypte. Qui était Joseph et tous les hommes de Dieu? Non, Dieu a fait en sorte qu'avec son nom, et le Seigneur l'avait déjà dit à l'époque, à cause de mon nom, vous serez haïs de toutes les nations, partout. Celui qui pense parvenir à la gloire avec le nom du Seigneur, il s'est trompé. Il perdra son honneur en un clin d'œil, devra prendre sa croix et portera l'opprobre de Jésus-Christ. Et que celui qui ne la porte pas se demande s'il est à la suite de Jésus, s'il suit Jésus. La deuxième chose est, bien sûr, toujours avec ceux que Dieu envoie. Notre Seigneur a en effet dit, après sa résurrection, « Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. » Il a bien dit que celui qui vous écoute, m'écoute. Il a tout de même dit certaines choses. Il y a eu et il y a encore des hommes envoyés par Dieu. Et tous ceux qui sont vraiment de Dieu écoutent la voix de Dieu qui parle encore aujourd'hui aux hommes par la bouche des hommes. Et celui qui a compris cela, que Dieu rend sa parole vivante et nous la révèle, et nous parle ainsi par sa parole. Je vous le dis, après de telles expériences, nous devenons encore plus reconnaissants. plus reconnaissant. Au début, j'étais triste. L'équipe ne m'avait pas dit au revoir. Elle m'avait serré la main si fort et la joie était si grande. Et puis, je n'ai même pas pu leur dire au revoir. Je n'ai même pas dit au revoir ce que tout Américain porte dans sa poche et qui fait partie de la bienséance. Je me suis dit, regarde, ils te font sentir avec quel mépris. Ils te punissent avec quel mépris. Et puis ça a continué. Une autre dame a pris l'avion. Et c'est ce que je veux raconter encore cela. Il n'est pas toujours nécessaire de prêcher. Nous entendons tellement de prédications. J'ai observé cette dame. Certains membres de l'équipe ont parlé avec elle. Et quand je l'ai vue assise dans le hall de l'aéroport, en train d'attendre le prochain vol, je me suis dit que j'allais lui demander à elle aussi où était sa place. Oui, elle aussi est baptiste et ceci et cela. Et puis encore, et puis j'ai demandé, « Madame, d'où venez-vous ? » Puis elle a dit, « Dallas, Texas. » Et Dallas, Texas a pour moi une énorme signification. En 1958, j'avais fait l'expérience de Dieu. J'ai encore entendu les nombreux évangélistes prêcher le jour et le soir. Frère Branham était l'orateur principal. Et quand elle a dit Dallas, Texas, alors j'ai dit, chère madame, cette ville a une signification particulière pour moi. Et j'ai pu continuer à parler. Je pouvais parler de la Voice of Healing, de la conférence des évangélistes. Puis je me suis dit, maintenant tu en dis un peu plus. Tu le dois à cette femme. J'ai alors dit, vous savez, chère madame, il n'y avait pas seulement une conférence et beaucoup d'évangélistes. Le soir, un homme de Dieu a parlé. Il s'appelait William Branham. Bonté divine. La femme s'est levée. Elle qui était si bien assise auparavant, comme si elle ne pouvait plus boire d'eau, elle s'est soudain levée comme si elle avait été mordue par un serpent. Et a crié autour d'elle, Branham, 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 je connais Branham. Je pense que c'est très intéressant. Et nous avons entamé une conversation et j'ai constaté qu'elle ne connaissait pas du tout Branham. Qu'elle ne connaissait que des gens qui faisaient beaucoup de bêtises avec des coups de tonnerre et autre chose. Ensuite, j'ai pu tout simplement clarifier et aider en parlant avec cette femme. J'ai tout de suite vu qu'à partir du moment où ce nom était prononcé, il se passait quelque chose. Personne n'a besoin de veiller à ce que quelqu'un s'endorme. Les personnes endormies se réveillent immédiatement et sautent. Comme cela. Comment est-ce que cela se fait? Quand on cite d'autres évangélistes, personne ne s'émeut. Ils peuvent prêcher ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Les gens le lisent aujourd'hui, demain ils l'auront oublié et après-demain, ça continue comme ça a toujours été. Mais c'est justement là que les esprits se divisent quand on dit Branham. Oui, pourquoi? Notre Seigneur a dit, je suis venu en ce monde pour une séparation, pour que ceux qui voient deviennent aveugles et que les aveugles deviennent voyants. Et les scribes disent, mais est-ce qu'il était en train de parler de nous maintenant? Et il a dit, mais oui, si vous connaissez le passage, n'est-ce pas? Vous connaissez le passage dans l'évangile de Jean. Mais parce que vous croyez voir. C'est pourquoi votre péché demeure. Devenons reconnaissants de ce que Dieu nous a destinés à entendre sa parole, à recevoir la révélation de sa volonté et de sa parole et de sa volonté. Et quel que soit l'opprobre que nous avons apporté ici, cela n'a aucune importance. Qu'ont fait les prophètes? Ils ont porté la parole. Ils ont été persécutés, lapidés, assassinés depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Mais ils ont porté la noble semence pour laquelle nous sommes encore reconnaissants aujourd'hui et que chantait de temps en temps Frère Branham. Le sang coule à flot, le sang coule à flot. Cette vieille parole de Dieu, le sang coule à flot. Notre Seigneur a fait couler son sang pour nous racheter et ensuite pour donner sa vie dans les rachetés, pour mettre sa vie dans les rachetés. Alors, qui peut être sanctifié? Un homme qui a du respect pour Dieu, qui craint Dieu, qui tremble lorsque sa parole est prononcée, est prêchée, qui sait encore lorsque Dieu parle. ce qu'il convient de faire quand Dieu parle, à savoir que l'on doit avoir à se taire et à écouter. Le Seigneur des armées, qui tiendrez-vous pour saint? Qui sera votre crainte? Lui, votre crainte. Alors il deviendra pour vous une occasion de sanctification. Dès l'instant où nous éprouvons du respect pour la parole de Dieu, nous pourrions maintenant entrer dans une étude biblique avec Ésaïe 8, 13 et 14. Je vous montrerai ce qui s'est passé avant la première venue de Christ et ce qui se passe maintenant avant la deuxième venue de Christ. Lors de la première venue de Christ, une préparation du chemin, une préparation. J'enverrai mon messager devant moi pour qu'il prépare le chemin devant moi et qu'il le prépare. Maintenant, il s'agit d'une restauration, d'un redressement, d'un retour à l'état antérieur dans lequel se trouvait l'Église dans le christianisme primitif. Nous écrirons encore à ce sujet et, si Dieu le veut, nous en parlerons encore aussi. Passons maintenant au Nouveau Testament et lisons ici aussi, dans 1 Thessaloniciens, nous lisons la chose suivante. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, ici je lis les deux derniers versets, le verset 19 et 20. Qui est en effet notre espérance, notre joie et notre couronne de gloire, si ce n'est vous aussi, devant la face de notre Seigneur Jésus à son avènement. À son avènement. Vous êtes en effet notre gloire et notre joie. Au chapitre 3, peut-être à partir du verset 10, chapitre 3, 1 Thessaloniciens 3, verset 3, verset 10, pardon. De jour comme de nuit, nous lui demandons, avec la plus grande instance, de nous accorder de vous revoir face à face et de remédier aux défauts qui affectent encore votre foi. Oui, que lui-même, notre Dieu et notre Père et notre Seigneur Jésus, nous fraye le chemin jusqu'à vous. Mais que dans l'amour les uns pour les autres et dans l'amour envers tous les hommes, le Seigneur vous fasse grandir et abonder en richesse, comme nous aussi envers vous. Qu'il affermisse vos cœurs afin qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu et Père, lorsque notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints. De quoi il s'agit ici? Toujours de nouveau, de notre préparation. De notre préparation. À quoi? Pourquoi? Pour la venue du Seigneur. Nous devons être totalement irréprochables dans la sainteté lorsque le Seigneur viendra. Quelle crainte! Quelle parole de Dieu! Comment devons-nous être saisis par la puissance de Dieu pour que l'état requis, exigé par Dieu, soit requis, exigé par Dieu, soit trouvé en chacun de nous, qu'il puisse être manifesté chez nous tous et en nous tous, oui. Qu'il affermisse vos cœurs. Que dit ton ailleurs dans un autre verset? Afin que le cœur soit affermi, ce qui se fait par la grâce, affermi dans la parole de Dieu, affermi dans ce que Dieu nous a révélé par sa parole. Oui, qu'il affermisse vos cœurs. Combien ont encore besoin d'être affermis dans les choses de Dieu? Aujourd'hui, tu peux l'obtenir. Il y a parfois des gens qui ont besoin de temps de réflexion avant que cela n'arrive. Aujourd'hui, cela peut arriver. Aujourd'hui, tu peux partir d'ici avec la certitude divine que Dieu nous a vraiment révélé sa parole par le Saint-Esprit. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. C'est justement lorsque l'on rencontre des personnes qui ne le voient pas, qui ne le savent pas, ou ne veulent peut-être même pas l'entendre. C'est alors que l'on devient reconnaissant et que l'on remarque la différence. Mais le chapitre 4 va encore plus loin. Ici, au verset 1, au reste, frères, Thessaloniciens 4, verset 1, nous vous prions et nous vous exhortons dans le Seigneur Jésus à marcher tout à fait comme vous l'avez appris de nous, de la manière dont vous devez vous conduire et vivre pour plaire à Dieu, que vous marchiez réellement de cette manière, afin que vous croissiez en cela sans cesse. De quoi il s'agissait? Il s'agissait du bon plaisir de Dieu. Du bon plaisir de Dieu qu'il puisse se reposer sur les croyants, qu'ils aient fait l'expérience d'une véritable justification avec Dieu et qu'ils puissent dire comme Paul l'a écrit, puisque nous avons maintenant la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons tous chanter ces choses, mais chacun doit en faire l'expérience individuellement. La paix avec Dieu, la justification par la foi, puis cela continue. Renouvellement, nouvelle naissance, jusqu'à ce que notre volonté soit placée réellement, entièrement dans la volonté de Dieu, comme nous l'avons lu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, mais autant que les cieux sont au-dessus de la terre, mes pensées et mes voix sont supérieures à vos voix et à vos pensées. Mais ensuite, nous arrivons au point où de même que Dieu n'habite pas seulement dans le sanctuaire et dans les hauteurs, mais aussi avec ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit courbé. Ce sont ceux à qui il est donné de sonder les pensées de Dieu dans sa parole, de trouver les traces divines, et ensuite de les suivre. Avons-nous pu prendre quelque chose, recevoir quelque chose? Non, cela nous a été donné par Dieu. Nous l'avons reçu de Dieu. Qui donc était assis à côté de nous et nous a donné des leçons? Le Saint-Esprit qui a dicté la parole, qui a inspiré la parole. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, nous a guidés, conduits dans toute la vérité et continuera à le faire. Car il est écrit, c'est ainsi que c'est écrit que lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Bien sûr, comme nous l'avons dit plus tôt, Dieu utilise la bouche des hommes. Il se sert d'un prophète pour parler par lui, révéler sa parole à son peuple. Mais ensuite, l'Esprit de Dieu vient sur le peuple de Dieu. Et nous voyons ce que les prophètes et les apôtres ont vu. Nous comprenons comme ils ont compris. Nous reconnaissons comme ils ont connu. Et nous devenons ainsi un avec Dieu et un avec tous ceux par qui Dieu a parlé de tout temps. Nous devenons ainsi une partie intégrante de ce que Dieu fait maintenant. Non seulement sa parole, l'avoir dans notre bouche, mais la portant dans notre cœur comme révélation divine de sa parole et de sa volonté. C'est aussi ce que nous avons dit autrefois, tout à l'heure plutôt. La parole est interprétée dans toutes les directions. Et il semble qu'il y ait toujours plus d'interprétations qui s'ajoutent. Cela ne suffit pas aux gens, n'est-ce pas? Mais il y a un peuple sur la terre qui n'interprète pas, mais qui croit comme il est écrit. Croyez que Dieu a parlé. Un peuple de Dieu qui a sa relation avec sa parole par son esprit. Je vous le dis, j'apprécie cela. Il n'y a pas de meilleure preuve pour un homme qu'il est en accord avec Dieu que d'être en accord avec la parole de Dieu. Il peut y avoir beaucoup de gens qui disent « Je marche avec Dieu » et ceci et cela. Ce ne sont que des paroles en l'air, à moins que nous soyons en accord avec la parole de Dieu. Pas seulement maintenant en général, avec quelques déclarations. Elle inclut également la parole de Dieu pour l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. À quoi cela servirait-il à chacun d'entre nous de savoir ce que Dieu a fait et de s'en réjouir si nous n'avions pas les yeux ouverts et ne savions pas reconnaître? Oui, ce sont là des promesses pour nous, pour notre temps, pour moi, pour toi, pour l'Église de ces jours-ci. Promesse que nous acceptons et auxquelles nous croyons. Et là aussi, nous attendons pleinement l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Et croyez-moi, de même que le Seigneur a fait venir la parole pour ce temps, et pas seulement la parole, mais par un ministère apostolique confirmé. Croyez-le, le ministère de Frère Branham était au moins aussi bon que celui de Paul et de Pierre, une restauration complète du ministère originel que Dieu avait placé dans l'Église au commencement. Nous l'avons vu dans la vie de celui que Dieu a utilisé pour nous apporter le message de la restauration. Il avait la parole et il avait à la parole la confirmation divine qui accompagnait son ministère. Cela est incomparable et le restera jusqu'au jour où le Seigneur viendra chercher les siens. Mais nous en arrivons maintenant au point où le Seigneur, tel que le Seigneur a envoyé les deux, un homme avec un message, mais qui avait en même temps un ministère apostolique, prophétique, restitué, restauré, entièrement biblique, légitimé devant le monde entier. Ainsi, la confirmation et la légitimation divine doivent être révélées chez ceux qui ont entendu le message divin. C'est le sens et le but de ce que Dieu a vraiment l'intention de faire. Vous ne pensez tout de même pas que nous n'aurons que des mots à disposition jusqu'à la fin, des paroles en l'air, non, des paroles, seulement des paroles, non. À la fin, ce que nous avons entendu comme parole doit se traduire dans la réalité. Il faut qu'il devienne évident que la parole de Dieu est vraie et qu'elle ne revient pas à vide, à lui sans effet, mais qu'elle produit l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Nous avons également mentionné ceci. Frère Branham a placé la parole de Jean 14, verset 12 sur le chandelier à plusieurs reprises, comme Hébreux 13, verset 8. Dans un passage biblique, nous lisons Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans l'autre, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et même de plus grandes. Quand dit-il cela? Juste après, quand il a dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais le Père qui habite en moi. Il fait ses œuvres. Dieu en Christ, Christ dans l'Église. Voici le lien. Le Seigneur a envoyé un prophète, un esclave serviteur. Il lui a donné un ministère restauré pour un ministère de restauration, pour apporter à l'Église la parole de restauration, afin qu'elle ait un modèle, un point de repère, un point de repère en vue de ce que nous devons, à quoi nous devons nous attendre. Un ministère restauré pour que nous ayons un modèle. Et quelqu'un pourrait dire, oui, mais cela a l'air triste. Mais ce n'est pas à désespérer. Nous ne nous trompons pas sur notre état, mais nous ne regardons pas, n'est-ce pas, à l'état de notre corps, ni à l'état du corps de Jésus-Christ. Nous regardons au Dieu vivant qui est capable de rassembler les eaux mortes, de leur donner une nouvelle vie et de se manifester une fois de plus. Il en sera de nous comme de Marie. Lorsqu'elle a dit, je ne connais pas d'homme. Nous ne connaissons pas non plus d'homme, mais nous le savons de Dieu. Nous savons de Dieu, nous connaissons Dieu qui nous a fait la promesse. Les choses humaines ne peuvent pas être mélangées avec les choses divines. Dieu ne tolère aucun mélange. Dieu veut une semence originale. Avec le Christ, il a fait ce nouveau commencement. Nous devons naître de nouveau comme il est né de la semence, de la parole, par le Saint-Esprit. Et ainsi, nous avons un avenir glorieux. Un avenir glorieux. Dieu confirmera sa parole. Je m'y tiens. Cela en fait partie. Ça fait partie de cela. C'est la promesse. Et ce qui est bien, c'est que le message était accompagné d'un tel ministère, au-delà de tout doute, confirmé, légitimé par le Dieu Tout-Puissant, afin que tous ceux qui sont de Dieu entendent la parole de Dieu en ces jours-là. Là encore, nous avons le passage biblique. Tous ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. C'est ce que a dit notre Seigneur autrefois. Pourquoi ne pouvez-vous pas écouter ma parole? Même pas. Ils ne veulent même pas l'écouter. Ils ne supportent même pas. Ils n'étaient même pas prêts à écouter. Est-ce qu'il en va autrement pour nous aujourd'hui? Si on veut parler aux gens et leur dire quelque chose et leur lire un passage biblique, ils ne sont même pas prêts à écouter. Oui. Comment peut-on alors leur parler s'ils ne veulent pas écouter et entendre? Comment cela s'est-il passé pour toi? Une chère sœur originaire de Yougoslavie m'a dit avant le début du culte que la première fois où elle avait écouté ce message, elle a tout de suite pu croire. Tout de suite, elle a accepté. Et cela est resté ainsi jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui ouvre le cœur. Et que cela n'était pas pour nous ainsi. Nous n'avons même pas eu besoin de temps de réflexion. La parole de Dieu a brûlé dans nos cœurs. Nous l'avons cru. Nous l'avons reçu entièrement. Et nous en sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Plus il y en a, plus nous nous sentons à l'aise. Encore un passage biblique. Plus le message est apporté, plus nous nous sentons à l'aise. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia. Gloire au Dieu vivant. Celui qui a commencé continue d'agir. Et lui qui continue d'agir, il accomplit. Il achève. Quand? Et comment? Au jour. Pas déjà aujourd'hui. Au jour de son retour. Nous devons aussi avoir cela très clairement à l'esprit. Que Dieu a un calendrier, que tout se déroule selon sa parole et sa volonté. Ni trop tôt, ni trop tard, ni trop peu. Tout en temps voulu. Et si en plus nous accompagnons ainsi Dieu, nous marchons, nous suivons Dieu et ne restons pas en arrière, mais persévérons dans la patience et disons, Seigneur, je veux faire partie de ceux qui seront prêts en ce jour-là et qui pourront venir à toi dans la gloire. Je veux être du nombre des élus. Cœur. Dis au Seigneur, donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour cela, jusqu'à la puissance qui rendra la vie à nos corps mortels. Pas n'importe quoi, mais la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, la même puissance, cette même puissance, doit habiter nos corps mortels pour les rendre vivants en ce jour-là, pour les changer. Que lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, et le corps soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour-là, le corps sera également inclus. À la fin, il se passera des choses énormes qui ne se sont encore jamais produites sur terre jusqu'au miracle de la création quand la parole sera prononcée, quand cela arrivera. Alors ces choses se produiront. Notre Seigneur a toujours dit que cela soit fait et cela a été fait. Il a dit et c'était là. Il a ordonné et cela a existé. Et c'est ainsi que ce sera à la fin. La prière le précédera. La prière sera une préparation pour entrer dans la présence de Dieu pour qu'il puisse ensuite, par son esprit, conduire, donner des instructions, inspirer pour que ce qu'il veut voir exprimé soit exprimé, soit dit, et cela soit prononcé. Et cela aussi, je vous le dis, dès aujourd'hui, sa parole ne reviendra pas vide, sans effet, mais elle accomplira instantanément sur le champ ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Quand le Seigneur a dit, vent, tais-toi, le vent s'est tu sur le champ. Quand il a dit, vague, couchez-vous, les vagues se couchèrent sur place. Et les disciples se dirent les uns aux autres, qui est cet homme? Même leurs yeux n'étaient pas encore tout à fait ouverts. Qui est donc cet homme? Celui qui, dont le vent et les vagues obéissent, celui à qui tout obéit. Il dit au lépreux, sois pur, et il était pur. Ce qu'il disait s'accomplissait, se produisait. C'est maintenant la même chose doit arriver à la fin, bien-aimés. Commençons donc à nous réjouir que cela devienne une espérance vivante en nous, une espérance qui est ancrée dans la parole de Dieu, qui n'est pas une espérance, et n'est pas une espérance qui tourne et flotte quelque part dans l'air, mais qui est fondée ici dans la parole de Dieu. Une ancre qui va au-delà du rideau, c'est-à-dire dans le saint, dans le lieu très saint. Il ne nous reste plus autre chose à faire que de remercier le Seigneur. Je vous le dis, comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, de nombreuses expériences sont nécessaires pour nous rendre plus reconnaissants, pour nous faire savoir quelle grâce c'est d'avoir entendu la parole de Dieu avec véracité en ce temps et d'avoir reçu par l'écoute de la parole de Dieu la révélation de la volonté de Dieu pour ce temps. Nous n'avons vraiment pas besoin d'un ange Gabriel qui vienne encore nous éclairer. Dieu nous a éclairés sur sa parole. Il nous guidera pas à pas jusqu'à ce que ce jour et cette heure arrivent et que nous soyons rassemblés devant le Dieu vivant, devant sa parole, devant son nom, devant sa face, et que nous comptions sur lui, que nous l'attendions, que nous nous réunissions, en fait, dans le but que Dieu se révèle, se manifeste. Pour l'instant, nous nous réunissons encore pour écouter la parole. Nous l'entendons et nous rentrons chez nous satisfaits. Mais le temps vient où l'on ne se réunira pas uniquement pour écouter, pour entendre la parole de Dieu. Le temps arrive et vient où nous nous réunirons pour vivre, pour expérimenter ce que Dieu a dit dans sa parole. Encore une parole pour tous ceux qui n'ont pas encore consacré leur vie à Dieu. S'il y a vraiment parmi nous des personnes qui n'ont pas encore fait l'expérience avec Dieu, aujourd'hui, tu peux faire l'expérience avec Dieu. Le salut est là pour toi. La rédemption par Golgotha. Le Seigneur a versé son sang et en a payé le prix. Aujourd'hui, tu peux devenir croyant. Aujourd'hui, tu peux être sauvé. L'Écriture dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il en va de même pour la guérison. Abandonnez la crainte. Recevez la crainte en vous. La crainte de Dieu, la crainte est liée au doute. Le doute est lié à l'incrédulité. Et l'un entraîne l'autre. Croyez donc. Croyez ensemble aujourd'hui. Croyons comme le dit l'Écriture, croyant au Seigneur, qu'il est le même et qu'il confirme sa parole. Aujourd'hui, il confirme ici, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Réalise aujourd'hui ce qu'il a promis ici. Je crois que cela peut arriver. Si tu t'y attends, tu peux l'emporter avec toi. Dieu est présent. Dieu ne fait pas de promesses en l'air. Dieu tient ce qu'il promet. Nous pouvons compter sur Dieu. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Nous pouvons le croire. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui de tout notre cœur. Que son nom soit loué. Amen. Nous nous levons pour prier. Inclinons nos têtes, fermons nos yeux, ouvrons nos cœurs. Nous resterons devant Dieu dans une prière silencieuse. Peut-être y a-t-il ici quelqu'un qui a pris sa décision pour le Seigneur et qui veut dire « Sauveur fidèle, aujourd'hui je te donne ma vie. Aujourd'hui je te reçois dans mon cœur. » Que le Seigneur n'habite pas seulement dans les lieux très hauts et dans le sanctuaire, mais qu'il soit aussi avec ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit courbé. Il veut le faire. Nous nous inclinons sous la main puissante de Dieu. Nous nous humilions en sa présence. Nous sommes poussière. Nous ne sommes rien du tout, seulement ce qu'il fait de nous. Alors que les têtes sont inclinées et que nous nous examinons ainsi devant la face de Dieu, qui a le courage de lever la main en signe que nous pouvons vous inclure dans la prière. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu bénisse. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Il voit les mains. Il voit les cœurs. Il sait ce que nous pensons. Je suis reconnaissant à Dieu. Je sais que sa parole ne peut pas revenir vide. Même si nous attendons encore des choses qui restent à faire, mais ce qu'il a promis, à savoir de sauver, de guérir, de bénir, ça, il le fait quotidiennement, il le fait tous les jours, il le fait à chaque heure. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, nous pouvons faire l'expérience de Dieu, avec Dieu. Seigneur fidèle, je tiens ta parole dans mes mains et je la porte dans mon cœur, sur mon cœur. Seigneur fidèle, tu as dit dans cette parole, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Je ne le rejetterai pas. Seigneur fidèle, nous venons maintenant ensemble avec tous ceux qui ont levé les mains parce qu'ils veulent venir à toi. Nous venons maintenant ensemble vers toi. Nous te les présentons, Seigneur fidèle, que ton esprit agisse puissamment sur eux, ô Seigneur, afin qu'ils sentent qu'ils ont été saisis par toi, qu'ils ont été touchés par toi, oui, qu'ils ont été convaincus du péché, de l'incrédulité, du jugement, de tout, comme il est écrit. Ô Seigneur fidèle, donne-nous des assemblées, des réunions dans lesquelles tu peux marcher et agir parmi nous, sauver, guérir, délivrer, ô Seigneur fidèle, des réunions où tu parles et où ta parole est crue. Seigneur, accorde-nous une sainte crainte de toi afin que tu puisses ainsi devenir une sanctification pour nous tous. Parce que nous venons devant ta face dans une attitude juste, ô Seigneur, en nous exclamant, j'ai des lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées et toute la terre est pleine de sa gloire. Dieu fidèle, tu nous as fait la grâce en ces derniers temps de te connaître, de connaître ta parole, de connaître ta volonté. Et Seigneur fidèle, nous voudrions nous exclamer avec Paul que nous voulons aussi connaître la puissance de ta résurrection. Ô Seigneur fidèle, viens à notre secours. Nous te croyons, nous te faisons confiance. Seigneur, nous prenons ta parole au sérieux. Accorde-nous la grâce de la vivre, de ne pas avoir peur, mais de nous placer avec toi, avec foi, sur chaque promesse, sachant que tu ne peux pas manquer à ta parole. Tu ne peux pas l'annuler. Tu dois la tenir, l'accomplir et faire ce que tu as promis. Seigneur, bien-aimé, nous te confions ainsi tous ceux qui t'ont consacré leur vie. Ah, Seigneur, nous prions qu'il s'agisse du salut, de la guérison ou de la délivrance. à Golgotha, tout a été accompli. Tout est arrivé. La guérison, le salut, la délivrance. Et nous croyons aujourd'hui que tu l'as accompli ici et que nous l'avons reçu et que nous l'avons expérimenté. La parole de la croix est en effet une puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Et aujourd'hui, nous croyons, Seigneur, aide-nous à entrer dans cette foi qui a été transmise une fois pour toutes au Saint. Seigneur, c'est pour cette foi que nous voulons nous tenir. Pour elle, nous voulons combattre. Mais nous voulons que cette foi devienne si vivante et trouve une confirmation. Sa confirmation, qu'elle s'accomplisse aussi à ceux qui suivent la foi, qui croient. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, bien-aimé, je te remercie pour les milliers de personnes que tu as sauvées. Seigneur, comme mon cœur s'est réjoui de voir ces foules. Seigneur, tu fais de grandes choses aux quatre coins de la terre. Tu as ton peuple parmi toutes les langues, les peuples et les nations. Ensemble, nous te prions maintenant pour tout l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord, spécialement pour la Russie, pour Gorbatchev. Nous te prions, Seigneur, de poser ta main sur cet homme d'une manière visible. Dirige son cœur, donne la liberté de l'Évangile dans tout le pays, dans tout l'Est, Seigneur. Le temps est venu, ô Dieu, que la parole, l'Évangile éternel, soit proclamée, valable éternellement, soit proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur fidèle, rends grâce. Nous te confions tout et pas seulement à cause de nous, à cause de ta cause, ô Seigneur, à cause de ton peuple, Seigneur, que tu puisses t'élever maintenant afin que les ennemis soient écrasés et que tu pourras diriger les cœurs comme les cours d'eau. Tu établis des rois et tu les renverses. Ô Seigneur, mon Dieu, comme au jour de Daniel, ainsi en est-il de notre temps. Encore une fois, nous te soumettons tout, même le monde religieux qui s'égare. Ce n'est certes pas une idéologie qui égare. Où donc, où sont les hommes, Seigneur, qu'ils soient évangélistes ou non, tous passent à côté de toi et de ta parole que tu as promise, secouant la tête contre ceux qui te croient. Ah, Seigneur fidèle, rends grâce. Je te rends grâce encore une fois de nous avoir fait trouver grâce devant ta face, de nous avoir permis de croire en ton nom et d'être témoin qu'aucun d'entre nous ne sera couvert de honte, ceux qui ont placé leur confiance en toi. S'il te plaît, Seigneur, sois proche de nous.